Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
La jeunesse n'est-elle qu'un mot ?
Papa, il faut que je t'explique.
Non, alors,
je veux que tu comprennes.
Oui, mais alors deux secondes. Hein.
Deux secondes. Vas-y. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Et les bagnoles, foutu. Papa, il faut que tu en prennes conscience, faut que tu te réveilles.
Il est paradoxal de vouloir tenter une histoire de la jeunesse. N'a-t-elle pas un corps qui lui est propre depuis que le monde est monde ? Il est vrai pourtant qu'elle est à certains égards une invention moderne. Le monde occidental a connu un coup de jeune dans les années 1960, c'est indéniable. D'où le recours fréquent depuis au vocabulaire générationnel, bof génération, génération morale, on vous épargnera la génération Bataclan. Mais si la jeunesse n'était qu'un mot, demandait judicieusement Pierre Bourdieu. Il faut évidemment parler des jeunes au pluriel, en fonction notamment de leurs appartenances sociales. Il reste que le mot « jeunesse » est un enjeu politique. Les manifestations étudiantes rejouent l'insurrection de la parole de mai 68, mère de toutes les batailles. La Manif pour tous observe qu'elle a offert sa première expérience politique à toute une jeunesse silencieuse. Le Front National claironne qu'il est devenu dans les urnes le premier parti de toute une jeunesse en colère. Ces enjeux contradictoires et manipulatoires dépassent les jeunes, mais au moins partent-ils d'eux et permettent-ils de parler d'eux ?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Comment va mon Jules ?
Mais Jules est toujours aussi mauvais en classe.
Comment tu peux dire ça ? Les profs sont nuls. Jules est brillant, malin.
Ses résultats sont nuls.
Mais c'est toi qui es nul de parler de ton fils comme ça. Il est très intelligent. La classe ne l'intéresse pas, voilà.
Mais maman, c'est l'année du bac !
Non, mais tu l'entends ? C'est ton fils qui dit ça. Programme bac. On t'a pas élevé comme ça, sûrement pas.
C'est vrai qu'on t'a pas éduqué comme ça.
Les grands-parents, 68 tard, qui d'une même voix reprochent à leur fils de vouloir faire suivre le programme au petit-fils. C'est un film de Romain Goupil. On va pas mal parler cinéma aujourd'hui, puisque Ludivine Pantigny, bonjour.
Bonjour.
Entre autres sujets de curiosité, vous vous intéressez à tous les types de cinéma.
Ah oui, le cinéma populaire évidemment, le cinéma d'art et d'essai, tout ça fait partie d'un grand tout, et bien sûr.
Eh bien, on aura des représentations de tous ces secteurs du cinéma. Parmi vos curiosités multiples, jeunes et générations en politique. Et il paraît que vous préparez, après nombre de publications, un livre sur mai 68.
Oui, un livre sur 68, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et notamment en termes d'archives qu'on nommerait par le bas, hein, voir l'histoire par le bas, par les comités d'action, les comités de quartier, les comités de grève, et de ressaisir les projets, les imaginaires du futur, les désirs de société, et aussi la conscience de faire l'histoire, hein, qui est très présente en 68, et pas seulement chez les grands leaders. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant finalement, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des quartiers, des entreprises et des universités occupées.
Et pas seulement chez les étudiants. Cette première partie de l'émission, on va la consacrer, si vous le voulez bien, au thème de l'engagement en politique. Mai 68, et il y a eu des prémices avant, c'est massivement, on en a perdu la mémoire, un mouvement d'ouvriers.
Exactement, ça c'est vraiment très important de le souligner. C'est quand même la plus grande grève générale que l'histoire en France ait connue. Et il y a une jonction qui est passionnante, et c'est ce qui fait peur au gouvernement d'ailleurs. À l'époque, les conseillers de l'Élysée s'en inquiètent et s'en angoissent, parce que ce qui fait peur, c'est cette convergence entre les salariés et les jeunes étudiants, avec cette volonté de la part des étudiants de n'être plus uniquement des étudiants, c'est-à-dire de sortir de cette catégorie, et pas seulement pour aller au peuple, hein, par une sorte de curiosité sociologique et politique, mais vraiment par un souci profond de changer de société, de changer en particulier ces espèces de cloisonnements sociaux, travail manuel d'un côté, travail intellectuel de l'autre.
Mais et donc, tout
ce qu'on
le monde
voit
considère,
en 68, c'est l'importance de ces jeunes ouvriers.
Tout le monde considère les jeunes ouvriers comme extrêmement importants. Le gouvernement, parce qu'il a du respect pour la classe ouvrière.
Oui.
Les forteresses ouvrières, ça inspire le respect. Et les étudiants, parce qu'ils ont une représentation peut-être mythique, en tout cas très marxiste, de la classe ouvrière. Tout le monde parle de classe ouvrière, sans difficulté, à droite et à gauche, à l'époque. Je voudrais vous faire vous souvenir d'un slogan qu'on portait en procession entre Paris-Sorbonne et Flins. L'usine Renault, vous vous souvenez ?
Oui, bien sûr. Voilà, l'idée que les ouvriers pourront reprendre des mains fragiles des étudiants. Voilà, la perspective notamment.
Le flambeau. De la Révolution.
De la Révolution. Là, la perspective révolutionnaire. C'est très beau cette expression des mains fragiles des étudiants, parce qu'il y a vraiment une conscience que les étudiants seuls, évidemment, ne peuvent pas métamorphoser la société.
D'autres vont dire que c'est peut-être un peu dérisoire. Mais remettons-nous dans le climat de l'époque. Un film tourné après coup d'Olivier Assayas le marque bien jusque dans l'intonation des voix. Ce sont des étudiants qui imaginent d'aller recueillir la parole ouvrière. Et jusqu'en Italie, certains sont allés à Carrare, chez les anarchistes du marbre, eux veulent aller à Reggio di Calabre.
La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière, pour des gens pauvres, isolés, dépourvus de moyens d'action, qui sont exploités par le système.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux au sein du lycée ? On peut se battre pour le droit des lycéens, pour le droit des jeunes.
Je veux te parler franchement. Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat. T'observes l'engagement des autres, mais toi tu te protèges.
Non, t'as tort. C'est les convictions, la peinture, la révolution.
Tu parles en artiste.
Aujourd'hui, l'important c'est de faire connaître les luttes, pas de faire du style. On s'adresse au peuple, pas aux esthètes.
Pourtant, il faut un langage neuf pour des idées neuves.
Oui, mais le langage neuf, c'est celui des ouvriers révolutionnaires. C'est leur parole qu'il faut recueillir.
C'est ce qu'on va faire à Reggio Calabria, dans le sud.
Les émeutiers ont contrôlé la ville pendant 3 semaines.
On veut écouter les ouvriers révoltés. Ils ont tenu tête à l'État. Il y a forcément des choses à apprendre de leur combat.
Et tout ça dans un nuage de fumée, Ludivine Bandini. Vous avez entendu le craquement de l'allumette dire qu'il y a une ancienne ministre socialiste qui veut aujourd'hui interdire les subventions publiques aux films où le tabac serait présent. Vous ne trouvez pas ça un peu emphatique? Ridicule.
Emphatique, peut-être, mais ça n'est qu'un film, hein, finalement. C'est pas forcément tout à fait représentatif de l'esprit de mai. En tout cas, ce qui est très pertinent dans cet extrait, c'est l'importance de la prise de parole. Comme l'avait dit Michel de Certeau dans le vif de l'événement, la prise de parole, avoir cette légitimité à prendre la parole quand on en est en général privé, comme c'est le cas de beaucoup, évidemment, de travailleurs à l'époque. Et puis cette idée, non pas seulement d'aller recueillir la parole, comme il est dit ici, mais de la construire ensemble, de construire une parole commune entre travailleurs et étudiants.
Oui, mais...
C'est ce que feront, par exemple, les cahiers de mai. Les cahiers de mai, des enquêtes avec une espèce d'écriture collective. Et on le voit aussi en termes de cinéma, on en reparlera peut-être avec le groupe Medvekine, qui crée
je vous promets,
ensemble
on va entendre un extrait des productions du groupe Medvekine, mais si on se souvient bien quand même, Ludivine Bantigny, le parti communiste, dans ses forteresses avec la CGT qui était très proche, regardait avec beaucoup de circonspection le mouvement étudiant qui ne suscitait de curiosité pratiquement qu'à la CFDT. Il n'y a pas eu d'alliance.
Alors, là, on peut plutôt parler de la direction du Parti communiste, je me permettrai cette petite nuance, parce qu'il y a quand même beaucoup de militantes et de militants communistes à l'époque qui sont très soucieux de ces convergences avec les étudiants. Ce qu'on voit dans les archives de police, qui sont passionnantes comme on peut l'imaginer, c'est que dès le tout début du mois de mai, lors des premières arrestations, lors des premières nuits des barricades, et pas seulement, les premières confrontations avec les forces de l'ordre, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de jeunes ouvriers. On voit un panel de professions, de métiers qui d'ailleurs pour la plupart n'existent plus. Et donc très rapidement, il y a cette convergence. Alors on a souvent en tête les grilles fermées de Billancourt, hein, devant les étudiants qui venaient de la Sorbonne pour établir cette convergence. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que malgré tout, ces rencontres improbables, comme en ont parlé Xavier Vignat et Michel Zancarini-Fournel, ces rencontres improbables entre étudiants, qui sont encore une petite minorité, somme toute privilégiée, et ouvriers, ces rencontres ont été assez importantes et nombreuses, beaucoup plus qu'on l'imagine.
Si vous voulez, Ludivine Bantigny, j'ai continué sur le mode de la provoque. Dans les années 1970, les mouvements importants, notamment celui contre la loi Debré de 1973, était quand même davantage marqué. Je parle des jeunes éduqués par le souci de soi et de ses propres intérêts. Rétrospectivement, aujourd'hui, on dirait la loi Debré, c'est bien. Elle impose l'appel pour le service militaire à 20 ans, à tout le monde. 18 ans pour les volontaires, souvent issus du monde ouvrier, 21 ans maximum, sans davantage de sursis pour les étudiants. Parce que le service militaire, il était devenu sacrément inégalitaire, comme en témoigne le pistonnet Claude Berry.
Allô, Bertrand, ici le commandant de bonne foi, repos. Vous n'avez pas dans vos cas sociaux difficiles une fiche au nom de Longman, 40 bis rue du Faubourg Poissonnière sur Citerre, c'est vous ?
Oui, mon commandant.
Alors, vous êtes artiste ?
Oui, mon commandant.
Ah, vous connaissez Brigitte Bardot ?
Oui, mon commandant.
Ah, apportez-moi l'affiche. Alors, comme ça, vous connaissez Brigitte Bardot ? Entrez. Repos.
Mais reste, mon commandant.
Vous n'êtes pas marié ? Vous n'avez pas d'enfants ? Vous n'êtes pas soutien de famille ? Vous n'êtes pas l'aîné de 9 enfants ? Vous n'avez pas perdu votre père à la guerre ? Votre mère, votre frère, votre sœur ? Personne ? Alors, de quoi vous plaignez-vous ? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous connaissez Brigitte Bardot, ça va s'arranger. Alors, sur votre fiche, là, je vois que vous souhaitiez l'armée de l'air Place Ballard, sûrement à cause du métro direct. C'est quelle station, Faubourg-Poissonnière ?
Bonne nouvelle, mon commandant.
Eh ben, c'est ça, Charenton-Ballard, c'est la ligne. Ah, pour l'armée de l'air, c'est trop tard, ils ont été appelés en mai, mais si l'artillerie anti-aérienne porte des lilas peut vous convenir, on peut arranger ça. Le métro n'est pas direct, bien sûr, il faut changer à République. C'est ça, ou les chasseurs alpins, c'est tout ce que je peux pour vous.
Claude Pieplu dans le rôle du capitaine de bonne foi. Quand on se souvient des vrais motifs des manifestations contre la loi Debré, les étudiants portaient des entonnoirs sur la tête pour se moquer du ministre de la Défense, on se dit il avait peut-être raison, le ministre de la Défense du temps. C'est le premier mouvement où apparaissent massivement les lycéens.
Oui, alors c'est vrai que vous avez décidé d'être provocateur, Jean Lebrun, donc je vous répondrai sur le même ton. Parce que, bon, finalement, on l'a vu déjà pendant la guerre d'Algérie, les étudiants se sont beaucoup mobilisés, et il y avait déjà aussi cette question des sursis. Mais les étudiants étaient à la pointe de la mobilisation contre la guerre. Et donc il y a aussi cette tradition antimilitariste qui s'est développée à ce moment-là. Et les étudiants, d'ailleurs, faisaient remarquer que c'est pas parce qu'ils étaient sursitaires qu'ils n'étaient pas ensuite, comme lieutenants, sous-lieutenants, sous-officiers, en première ligne, et bien malgré dans cette guerre comme dans d'autres. Donc, dans le mouvement contre la loi Debré, il y a vraiment cette tradition antimilitariste, d'une part, et qui, du coup, essaie de faire la jonction avec d'autres jeunes qui ne sont pas étudiants ou lycéens, sous cette bannière d'une lutte contre le service militaire et contre l'armée, contre ce qu'elle impose aux jeunes. Et puis, ce qui est intéressant, vous le soulignez, avec l'apparition, ou en tout cas la réapparition des lycéens dans un grand mouvement social et politique, c'est que naît une forme là, une forme qui est les coordinations lycéennes et étudiantes, avec une espèce d'auto-organisation qui se met en place, des assemblées générales, des délégués, etc., qu'on va retrouver bien plus tard, dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui même. Ouais, exactement.
Le PC, la CGT avaient bien raison de se méfier dès 1968. Après les mouvements, celui de 1986 particulier, contre Jacques Chirac, Premier ministre, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, Alain de Vaquet, qui voulait introduire des critères de sélection à l'université, vont toujours un peu rejouer mai 68 d'ailleurs.
Ah oui, il y a un véritable spectre de 1968. On le retrouve aussi bien du côté des slogans, des étudiants, de l'humour de 86, Chirac, attention, on est né en 68, ou Chirac est parti à Baden-Baden. Enfin voilà, il y a toutes ces références-là. Il y a aussi des références beaucoup moins ludiques et beaucoup plus graves, comme des projections de films sur les violences policières en 68, le livre noir des violences en 68. Et puis bien évidemment, cette question de la violence ressurgit avec la mort de Malik Oussekine.
Donc étudiant d'origine marocaine qui a tué rue Monsieur le Prince en 86.
Exactement. Et donc là, on a cette importance de 68 qui ressurgit véritablement sous la forme aussi de ces auto-organisations d'étudiants et de lycéens.
L'entrée en engagement politique marquée par un slogan récurrent, tous ensemble, ouvriers, étudiants. Ceci, c'est le groupe HK et les Saltimbanques. Vous en savez beaucoup plus sur lui que moi. Moi, j'ai lu que c'était très différent du style ministère des Affaires populaires dont le chanteur HK, qui participe à les Saltimbanques, est issu. Ce serait plus hip-hop. Chez le ministère des Affaires populaires.
Voilà, c'est moins rap que le ministère. Ouais.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met cher compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Ludivine Bantigny, la jeunesse n'est-elle qu'un mot? La jeunesse a-t-elle des intérêts communs? Peut-on marquer que les divergences sont plus importantes que les ressemblances? Enfin, toutes sortes de questions de cours. Avec vous, Madame Bantigny, nous partons maintenant du point d'observation sans doute le plus pertinent aujourd'hui, pas tant l'entrée en engagement politique, l'entrée dans le travail. Alors, s'il y avait démocratie, dit HK, on le saurait. Vous utilisez un concept démocratisation, ouais, en apparence, ségrégative en réalité.
Oui, je l'emprunte à l'historien de l'école et de la jeunesse, entre autres choses, même si la Première Guerre mondiale, Antoine Pro. Mais oui, bien sûr, parce que en réalité, bien sûr qu'il y a eu une massification du fait scolaire et notamment du monde étudiant.
Parce qu'en 68, dont on parlait tout à l'heure, oui. 12% de bacheliers.
Exactement.
Aujourd'hui, près de 80.
Bien sûr.
Mais
eh bien, voilà, j'ai quelques chiffres sous les yeux parce que je les connais pas par cœur, mais il y a moins de 25% de fils et filles d'ouvriers et d'employés qui sortent diplômés de l'enseignement supérieur, contre 80% des enfants de cadres supérieurs notamment, hein, et de membres de professions libérales. Donc, sous les dehors, en effet, d'une démocratisation, ou plus précisément encore d'une massification du fait universitaire, il y a vraiment une discrimination sociale au sein même de cet enseignement supérieur.
Et les jeunes sont aux premières loges, pardonnez-moi, les jeunes sont aux premières loges de l'austérité, ça c'est un terme que vous utilisez, et c'est autour de la question, même si elle est nommée différemment selon les époques, des premiers emplois que se nouent les grands mouvements, 94, CIP, contrat d'insertion professionnelle, époque Balladur, Villepin 2006, CPE, contrat première embauche.
Oui, mais ce qui est frappant depuis le début des années 80, c'est qu'il y a une sorte d'institutionnalisation de cette précarité des jeunes. On peut parler d'un préjudice de l'âge, assez clairement, parce que les jeunes seraient voués, comme par essence, au petit boulot, mal payé. Et ça a des conséquences pour l'ensemble des salariés, évidemment, parce que ça révise l'ensemble des salaires à la baisse. Donc une sorte de flexibilité permanente, depuis les contrats aidés, travaux d'utilité collective en 1984, hein, sous le gouvernement Fabius Mitterrand, jusqu'au CPE, vous l'avez cité, et puis jusqu'à ce qui nous est proposé aujourd'hui au travers de la réforme du
travail. Ah bah non, là
travail.
Je vais être provoquant, Ludivine Bantigny.
Oui.
Manuel Valls se dit, voilà une loi qui concerne tous les types de contrats et pas les contrats jeunes. C'est
Amen.
Égalitaire de ce point de vue.
Oui, donc Manuel Valls a dit, mais oui, en effet, s'il y a bien une égalité, c'est que en l'occurrence, ce qu'on a commencé à voir se manifester dans la rue, c'est une mobilisation à la fois de jeunes et de salariés, lesquels jeunes sont d'ailleurs souvent des salariés, puisqu'il y a plus de 25% d'étudiants qui doivent être salariés pour financer leurs études. Et donc, c'est vrai que là, c'est une loi égalitaire dans la régression sociale, puisque cette façon à la fois d'augmenter le temps de travail et de faciliter les licenciements va concerner tout le monde, mais les jeunes aussi.
Alors, je tiens mes promesses. Le groupe Medvekin. Voilà un film daté de 1971 qui se passe à Sochaux, chez Peugeot. Le groupe Medvekin, c'était...
Alors, c'est vraiment un projet donc porté notamment par Chris Marker, le projet d'une écriture cinématographique collective, que ce soit avec des professionnels et des non-professionnels du cinéma, en particulier des ouvriers, avec la volonté d'avoir cette écriture ouvrière cinématographique et de plus parler des ouvriers ou montrer des ouvriers, mais faire en sorte que les ouvrières et les ouvriers prennent part à cette écriture.
Une jeune fille de 17 ans à Sochaux, sa situation pouvait à l'époque paraître exceptionnelle, elle s'est généralisée.
J'ai 17 ans, je travaille au Ravi qui est géré par Peugeot à 80%. Alors, comme je suis une gamine, j'ai pas le droit de faire de politique, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de me défendre, je dois m'écraser, fermer la gueule et me laisser faire. Il y a aussi les caissières sont obligées de faire ouvrir les sacs aux clients pour voir s'il n'y a rien dedans. Elles se font engueuler par les clients, elles se font engueuler par le patron si elles ne le font pas. Et si on arrive à choper des gens en train de voler, on va le dire au patron et le patron donne des récompenses, quoi. C'est une façon d'acheter les vendeuses et de les pousser à jouer les flics. Dans les réserves, c'est pareil, il y a des courants d'air, il faut toujours mettre des pulls, des gilets, puis on n'a pas de liberté de mouvement, quoi. Surtout aux légumes, on doit décharger des cajots qui pèsent des fois vachement lourd, qu'on n'a pas la force de les décharger. On doit traîner des chariots de 300 kilos, des fois toute seule, quoi.
Est-ce que tu as déjà mené une action pour améliorer tes conditions de travail
Bah oui, j'ai tiré un tract. Alors vu que j'étais sous contrat de 3 mois, le contrat va expirer et ils vont pas me réembaucher, quoi. Enfin, c'est vraiment dégueulasse, leur truc de contrat. Parce que de toute façon, ils prennent des filles la plupart du temps âgées de moins 18 ans, quoi. Alors on a un rabattement du salaire et quand le contrat expire, ils en embauchent des autres.
Quelle divergence quand même aujourd'hui entre les diplômés qui ont des diplômes professionnalisants, qui finissent toujours au bout d'un délai plus ou moins long par trouver des travaux, et l'autre jeunesse, notamment la décrocheuse, celle qui n'a pas de diplôme. Il y a 20% de chaque classe d'âge qui sort des établissements d'éducation sans diplôme.
Oui.
Où est l'unité dans ces cas-là ?
Bien sûr, c'est ce que les sociologues appellent l'effet de diplôme, puisqu'il n'y a pas seulement un effet d'âge, mais un véritable effet de diplôme, et donc de creusement des inégalités sociales au sein même d'une génération. C'est certain. Et ce que dit bien l'extrait là, c'est en évoquant les abattements d'âge, qui ont existé jusqu'en 1968, mais qu'on retrouve sous d'autres formes depuis. C'est-à-dire que les salaires sont amputés en fonction de l'âge. Donc comme si les jeunes, à travail égal, seraient voués justement à être moins bien rémunérés. Mais quoi qu'il en soit, malgré cette différence sociale au sein d'une même génération que vous avez raison de souligner, il n'en reste pas moins que le point commun, malgré tout, à la jeunesse, c'est cette précarité. Parce que même les jeunes diplômés doivent faire face à cette profonde instabilité de l'emploi et sont souvent les premières victimes des licenciements.
Instrumentalisée ou pas, une nouvelle dimension est apparue progressivement, celle de la jeunesse issue des immigrations. Dernier extrait de cinéma, le film... Ma cité va craquer. Vous écrivez ça comment, Ludivine Montigny ?
6-T et craquer comme le crack, C-R-A-C-K-E-R.
Et ça se passe dans le 77, bien évidemment. C'est un cinéaste de mots, Jean-François Richet, qui, avant de partir aux États-Unis où il a pas mal réussi, s'est souvenu de son adolescence avec ses camarades sous des abris de bus. Alors, l'accent, vous savez que l'accent de banlieue est censé se répandre un peu partout, semble quand même identifier des jeunes issus des immigrations.
T'es qu'un objet, t'es qu'un pion, ils font ce qu'ils veulent avec toi, tu vois ce que je veux dire ? Ils disent, ouais, il y a 5 millions de chômeurs, on va arrêter, on a 3 millions qui travaillent au noir, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait 8, 9, 10 millions, ils disent ce qu'ils veulent. Toi, t'es à l'école, t'es un gentil étudiant, demain tu vas sortir, tu vas te retrouver chômeur, à la rue, sans rien, tu vois ce que je veux dire ?
C'est dans toutes les banlieues, là, quand ils cassent tout, les gars, là.
Ouais.
Toi, bon, genre, style émeute. En vrai, les keufs, tu vois, ils envoient genre 2 blindés, c'est fini. Tu sais quoi, ils ont peur en vrai, c'est des grèves générales, genre les grèves des ouvriers. Là, ils pompent de la thune, là, ils sont niqués. Là.
Donc, ils sont obligés de négocier, puisque c'est eux qui tiennent l'économie, les ouvriers.
Si le jour de la révolution, elle se passe avec les ouvriers.
De toute façon, ouvrier ou pas, tu vois, c'est dans la tête que ça se passe.
Quoi,
la première révolution, elle est dans ta tête.
Alors c'est un film un peu ancien, 1997, mais il y a encore cette représentation de la classe ouvrière, alors que le nombre des ouvriers a diminué, que les ouvriers sont bien davantage dispersés qu'autrefois. Il y a un slogan hier, 9 mars, qui était assez frappant, non à Germinal, oui à la grève générale.
Oui, c'est intéressant que ce thème de la grève générale ressurgisse.
Et Germinal, il a bien raison, le Premier ministre, ce sont des jeunes du 19e siècle.
Mais parce que les réformes qu'on nous propose, ou les contre-réformes, sont des réformes qui vont dans le sens d'une régression presque, d'un retour au 19e siècle. On parlait de travailler au jour la journée au 19e siècle. Et là, avec cette précarité, cette espèce de morcellement du travail auquel sont confrontés surtout les jeunes, mais pas uniquement, ben oui, on peut dire qu'on est face à une sorte de réaction. Ce qui est passionnant dans cet extrait, c'est l'évocation très politique des révoltes. Et les termes ont un sens, parce que dans ces cités, dans ces quartiers populaires, on parle souvent d'émeutes. Alors, ce sont des émeutes, et c'est le terme même dépolitise ces révoltes. En réalité, elles sont politiques, et là, ce qui est intéressant également, c'est la conscience qu'il s'agit aussi de sortir de cet entre-soi et d'aller... comme le disaient les jeunes de 68, d'aller à la rencontre des salariés, parce que c'est peut-être comme ça qu'on peut...
Je veux bien, Ludivine Bantigny, vous conviendrez quand même que la colère, qui parfois n'est pas bonne conseillère, vieux proverbe populaire, peut amener les jeunes à des positions que vous n'auriez pas imaginées. C'est quand même le Front National qui, dans les urnes, recueille le plus de suffrages des jeunes qui veulent bien voter.
Oui, vous avez raison de le préciser, des jeunes qui veulent bien voter.
Parce que les jeunes éduqués, ça ne les intéresse pas nécessairement de voter.
Exactement, mais il y a d'autres manières pour elles et pour eux de se mobiliser politiquement. C'est-à-dire l'abstention ne signifie pas forcément une indifférence politique. Ce qui est certain, c'est que le Front National progresse beaucoup dans la jeunesse, et pour le coup, on peut en parler au singulier, puisque la nouveauté donc vraiment récente, c'est que même chez les diplômés, le vote Front National progresse, oui, qu'il y a une colère, et que malheureusement, elle peut aussi s'exprimer de cette façon.
Les sociologues ont inventé un mot qui vient du nord de l'Europe, Suède, Danemark, là-bas c'est le règne de la social-démocratie. La social-démocratie peut devenir une sociale xénophobie, au nom de la défense du modèle social, on est xénophobe.
Oui, ben ça me semble terrible. En fait, c'est assez catastrophique, parce que ce sont des divisions qui n'ont pas lieu d'être et qu'on voit beaucoup trop. Cette idée qu'on va opposer les enfants d'immigrés, les étrangers aux Français, entre guillemets, je pense que c'est vraiment pas la bonne façon de parler ni des jeunes ni de la société.
Ah bah des querelles et des petites haines entretenues, on peut passer au quenelle assez aisément. Marion Philippe a préparé cette émission. Merci à vous Ludivine Bantigny, à la technique Juliette Delperroux et à la réalisation Jacques Sigal.